Dans les pays du centre et du nord de la France, dès les premiers jours de septembre, une petite brise un peu trop fraîche va soudain cueillir au passage une jolie feuille d'un jaune éclatant qui tourne et glisse et virevolte aussi gracieuse qu'un oiseau.
CO2, mon amour.
Elle précède de bien peu la démission de la forêt qui devient rousse, puis maigre et noire, car toutes les feuilles se sont envolées à la suite des hirondelles quand l'automne a sonné dans sa trompette d'or.
Avec Denis Chessoux sur France Inter.
Eh ben oui, nous aussi, on va donc fêter l'automne, là. C'était la voix de Marcel Pagnol. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce haut de mon amour. Donc, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec aujourd'hui Maxime Goudard à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Et qui débute toujours par une petite humeur parce que c'était il y a 8 jours à Calais. Un grand sourire de 50 millions d'années, une femelle rorquale a heurté les enrochements. Et le défibrillateur là du port ne peut pas grand chose dans ces cas-là à Calais. Alors que Jonas me démente s'il ne s'agit pas d'un des derniers appels déchirants avant liquidation des stocks. Un dernier adieu à l'humanité d'une maman rorquale venue échouer sa gigantesque carcasse sur la grève grise et froide des illusions perdues. Calais, nouveau port de l'angoisse où en pleine pandémie se joue à travers cette COP26 le destin de notre si belle, unique planète. Ce deuxième plus grand animal, après la baleine bleue, est-elle nomade désorientée, à rebours du flux de misère qui veut apprendre l'anglais? Alors symbolique éclatante hein, du gentil monstre marin venu rendre son dernier souffle auprès des hommes, sur le lieu même où d'autres humains migrants jouent leur survie au poker menteur dans l'eau glacée des espoirs refoulés. Rejeté, inutile, encombrant, indésirable, comme autant de laisses de mer, un peu honteuses alors qu'elles sont si productives. 30 années à sillonner l'océan, échapper des harpons, des hélices, des porte-containers, des bouchons de plastique, des métaux lourds et des hydrocarbures, et revenir déposer le bilan chez nous pour une autopsie du monde. Brave bête. Alors j'ai eu la chance de voir cette semaine le film Animal, signé Cyril Dion, qui sort le 1er décembre. Alors on n'est pas du tout dans la morale, hein, parce que ça c'est classique. Vous faites de la morale, ça c'est le grand argument, vous savez, éculé qu'on balance à la face des écologistes quand on n'aime pas l'écologie qui soutient le vivant face à l'hyper-financiarisation du monde qui, elle, est si vertueuse. Et Animal, donc, rappelle clairement les causes de la 6e extinction des espèces et donc de l'humain qui est dans le même tambour de la machine à essorer le monde. On suit comme un fil vert, deux jeunes militants d'une quinzaine d'années, informés, questionneurs, lucides et agissants. Alors on va en Inde, au Costa Rica, en Californie, destruction des habitats, pollution plastique, surpêche, réchauffement, violence animale. Portrait d'ailleurs aussi d'un éleveur de lapins, très très franc, qui est coincé par les banques et sa coopérative. Mais le tout avec la lumière locale des gens, c'est-à-dire vous, nous tous, qui nous battons comme on peut sur le terrain. Alors, nom de Dion, allez avec vos jeunes voir ce film qui dit en sous-texte 1. Faut se secouer vite fait. 2. Un autre monde est possible. Notre rorquale femelle n'aura pas eu le temps de le voir en salle, mais elle a tout compris du grand manège désenchanté, de ces milliards de hamsters qu'on fait tourner encore et encore dans le moulin à profit, alors qu'ils voudraient juste ralentir. Quand, mes amis, arrêterons-nous enfin d'user la terre et le monde? Alors quoi de neuf? Eh ben l'automne, ben oui, ça va être notre vedette aujourd'hui, quelques millions d'années que ça dure, je le sais bien, chez nous. Et l'avantage encore d'avoir 4 saisons relativement marquées, on va en parler avec Patrick Deschamps, je vais vous emmener du côté de l'Isère, ouais, au pied de la Chartreuse, et du Grésivaudan.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, allant viendra le compte à rebours sur ses désirs brûler. Sur ces désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
La lucidité poétique de Bernard Lavilliers, qui déjà en 2004 avait parlé de ces villes à la fois brûlantes ou inondées. Nous partons dans un très bel automne.
Là, j'ai le nez dans les astères des Alpes et c'est une des dernières fleurs qui fleurit encore en automne. Je vois qu'il y a quand même pas mal de diptères et d'insectes dedans. Alors, il y a les abeilles d'à côté qui viennent butiner les dernières fleurs, en fait. C'est beau. C'est-à-dire qu'elles m'apportent beaucoup de choses. Elles m'apportent des endroits à peu près sauvages. Elles m'apportent des paysages grandioses, des changements de lumière fabuleux. Et là, entre octobre et novembre, ça fait quand même des couleurs ocre, des couleurs rousques. D'ailleurs, si on va au musée, qu'on voit tous les tableaux qui ont été peints par les peintres du 19e siècle, comme Achard, tout ça, on verra toujours la chartreuse ou le grésivaudan ont été peints en automne. Parce que c'est des belles couleurs rousses, quoi. C'est très beau.
Alors nous, on n'a pas le talent des peintres, mais peut-être celui de tenter de fabriquer des images avec un micro, des sons de la nature, la parole des raconteurs inspirés par le vent. Alors l'automne, c'est l'artériosclérose, on va dire, des feuilles, c'est leur vieillissement, leur détachement devant les choses. Mais c'est aussi un artiste aux mains d'or, on le sait, qui nous gratifie de toute sa palette de jaune. Et d'ailleurs, Jean-Marie Pelt va nous le raconter aussi. C'est aussi un pourvoyeur de fruits, de baies qui fait pousser les champignons. Alors, vous avez différentes vagues, hein. On a eu la première vague, on va dire, d'automne, 20 septembre jusqu'à fin octobre. Là, c'est une partition à la fois de fraîcheur et aussi d'immense douceur. Et puis là, on est dans le deuxième épisode de froid, de brouillard, mais aussi toujours de soleil. Alors, Patrick Deschamps, c'est un homme qui sait les saisons, car il sait la nature, dont il est une étincelle. C'est un homme qui a appris la langue des oiseaux, déjà tout petit, des chouettes, des renards, des mulots, des arbres, puis aussi les correspondances entre les lettres olfactives, par exemple, qu'ils s'écrivent. Et comme l'automne est donc un de ses copains, qui l'a adoubé, et ben on y va, on est au pied de la Chartreuse, on est au-dessus de chez lui, à Sainte-Marie-d'Alois.
Alors là, on monte évidemment, parce que la Chartreuse, ça se mérite. Donc dès qu'on va vers la Chartreuse, il faut grimper, forcément.
Ah, oui.
C'est le pays des gros mollets, ce qu'on appelait les jarrets d'acier. D'ailleurs, je crois que ça existe toujours, les jarrets d'acier.
Ça grimpe très sec, en fait. Hein.
Oui, et tout de suite. Ouais. Et là, vous avez le chant des rouges-gorges qui nous accompagne. Voilà. Il est très actif en ce moment, le rouge-gorge. Il marque son territoire, il plastronne. Et au fur et à mesure qu'on monte dans la colline, c'est un peu ce qui sauve la biodiversité, ces collines pré-chartreuses, avant les plateaux, parce que c'est des zones qui sont où l'agriculture a été pratiquement abandonnée. Il y a beaucoup de déprises agricoles, donc il y a des grandes prairies encore, avec des herbes sauvages, qui dit herbes sauvages, donc insectes, qui dit insectes, dit oiseaux. Et puis les oiseaux, ils descendent manger en plaine, où ils survivent là, dans ces prairies qui sont en plein soleil, qui sont bien orientées. Il y a des jets. Là, il y a un énorme figuier bourré de figues qui sont à 15 mètres du sol, donc on ne peut pas les ramasser. Alors là, les étourneaux, les jets, les pies, les mésanges, les fauvettes à tête noire, ça se régale. Et puis c'est une zone qui est une ancienne prairie qui est en train d'être envahie par les pruneliers, les églantiers, les érables, tout ça. Alors
ça, c'est parfait, hein. Ah. C'est un vrai studio d'enregistrement et de préparation de son pour les oiseaux.
Oui, alors ça, c'est parfait, par exemple, pour les pigrièches. Ouais. Une grande prairie comme ça, bien sauvage, avec des tas d'herbes et des épineux. C'est parfait pour la pyrièche écorcheur. C'est un superbe territoire. Sauf qu'un jour, évidemment, il va falloir tout girobroyer pour que ce soit tout propre et que ça va faire un gros dégât.
Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langue monotone.
Alors, l'intérêt de l'automne, c'est que... Enfin, il y a quand même deux périodes importantes pour les ornithologues, c'est le printemps et l'automne, parce que c'est les mouvements migratoires. Donc, on peut avoir des surprises. On peut voir n'importe quel oiseau entre octobre et novembre, comme au printemps, on a des arrivées de migrateurs, parce qu'au bout d'un moment, on connaît à peu près toutes les espèces qui peuvent nicher dans le secteur. Donc, on a toujours des surprises. On peut tomber sur une pécasse, on peut tomber sur des oiseaux. Au printemps, on peut tomber sur des huppes, par exemple. Et là, on a toujours le nez en l'air pour voir ce qui va passer. Ce matin, j'étais installé tranquillement et il y avait une belle pompe. Et dans la pompe, il y avait trois buses qui tournaient, qui faisaient un carrousel comme ça, qui montaient en criant. Et puis, au bout d'un moment, je me baisse parce que j'étais en train de lire un bouquin. Je redresse la tête, les buses avaient disparu et à la place, il y avait un épervier. Exactement au même endroit, mais juste au-dessus de ma tête. Quoi.
Mais donc même à son odeur chaud.
Ah bah oui, il avait profité. Bah, c'est-à-dire que l'épervier, il a vu qu'il y avait une pompe, il en a profité. Gros feignant. Alors il y a des rafales, là on voit, il y a des fauvettes à tête noire qui sont dans les pruneliers, là, il y a encore pas mal de... Voilà, on les voit là, il y a le pouillot véloce, il y a le rouge-gorge, il y a les mésanges, il y a une soixantaine de moineaux, et puis il y a des rafales devant. Si on veut voir le mouvement, il ne faut pas bouger soi-même. Or un oiseau, ça bouge tout le temps, donc en restant fixe, à regarder simplement, au bout d'un moment, on va voir un mouvement, donc on va regarder quel est cet oiseau. Le problème, c'est que le vent d'automne fait descendre les feuilles mortes. Donc il y a beaucoup de mouvements, dès qu'il y a une rafale, on voit des choses qui sortent des arbres, ce n'est pas forcément des oiseaux, c'est des feuilles mortes. Donc c'est au bout d'un moment, c'est épuisant, parce qu'à chaque fois, il faut mettre les jumelles là-dessus. Là, il y a un jet qui,
allez, un jet qui passe.
Il va se régaler avec les figues, il va se faire des confitures de figues. Là. Alors, ce matin, il y avait beaucoup de passages de grives, grives musiciennes, j'ai même vu une grive draine. Et là, c'est un jet, la façon de voler du jet. Hein. Deux petits coups d'aile, puis après, il glissade, il ne se fatigue pas. Et puis le croupion blanc très visible quand il passe devant.
D'une manière générale, de façon pour tous les animaux, c'est l'économie d'énergie. C'est à la fois éviter le prédateur et aussi l'économie d'énergie.
Ah oui, c'est ça, toujours sur le qui-vive. Alors là, il y a un bruyant zizi qui chante. La petite trille qui monte, là, c'est ça. Et là, il y a un magnifique buisson d'églantier, donc on va attendre le gel, puis quand ce sera bien gelé, on ira chercher les cynorhodons, les gratte-cul. Ça, on fait une confiture magnifique avec ça.
Puis c'est de la vitamine C, ça, le cynorhodon.
Voilà, et on voit dans les branches d'églantier les grappes de synips, là, les baies d'égard, les nids de synips qui font des espèces de galles. On les voit très bien, là. On va aller les voir, dans les... faire un tour. On va monter. Allez. Be careful!
Oui, c'est très, très be careful, là, oui.
Ah, ça n'a pas la bonne chaussure.
Non, pas complètement. Pas complètement.
Hop! Au fur et à mesure qu'on monte dans la colline, ben on entend tous les bruits de la plaine qui arrivent. Ouais. Hein, les voitures, les klaxons, des fois les pompiers, tout ça. Alors, donc on est devant un églantier. Et dans les branches de l'églantier, au bout, on voit ces espèces de galles chevelues, là, hirsutes. Ça, c'est des galles qui sont créées par le synips de l'églantier, qui est un petit diptère qui niche là-dedans. Il y a des petites loges à l'intérieur. Quand on les coupe en rondelles, il y a des petites cavités. Et dans la cavité, il y a les œufs du synips de l'églantier. Donc quand je taille toujours en dessous du baie d'égard, pour pas le bousiller.
Ce qu'on appelle le baie d'égard.
Le baie d'égard, c'est ça, c'est l'espèce de chose hirsute.
Le petit pompon, là.
Le pompon, dans lequel, des fois, il y en a des gros, hein, comme ça, voilà. Parce que là, mon petit travail, c'est de suivre le cul des chevaux qui sont dans la prairie et de dégager les passages, les sentiers. À chaque fois, à un coup de sécateur, je coupe une aubépine, une branche, une ronce qui dépasse. Donc, en fait, je vis avec eux et je leur dégage le chemin. En même temps, je me le dégage à moi aussi, évidemment, ouais. Mais voilà.
Alors ça, c'est votre truc, c'est-à-dire que vous avez toujours dans la poche un couteau, un sécateur surtout, et vous avez bien sûr vos jumelles.
Ah ben oui, ça, c'est indispensable. Ceci dit, au bout d'un moment, avec l'âge venant, avec la bouteille venant, on en a de moins en moins besoin parce qu'on connaît tellement les habitudes, les façons de voler des oiseaux qu'on les reconnaît simplement à la façon de voler. Par exemple, on voit un oiseau qui ressemble à une buse mais qui est plus léger avec une grande queue, qui fait 5 battements d'ailes puis une glissade, ça c'est un épervier, ça c'est sûr. Et puis la façon de voler, par exemple, les corneilles, c'est comme si elles agitaient deux chiffons à la fenêtre, comme ça, là, c'est un vol mou, ça, on reconnaît très bien.
Quel est le marqueur de l'automne dans l'air? Qu'est-ce que l'on sent?
Alors c'est très bizarre parce que c'est des bouffées d'air froid qui nous arrivent du nord. On se dit que, d'ailleurs ça nous amène des oiseaux, on se dit que ça doit commencer à faire dur dans le nord pour que les oiseaux se bougent. Ce qui est en train de se modifier en ce moment, parce qu'avec le réchauffement climatique, on domine de moins en moins les choses. Il y a des oiseaux qui ne bougent plus pratiquement. Mais là, on voit qu'il y a des paquets de ramiers qui arrivent d'un seul coup. Quand ça bouge dans le nord, le vent nous amène des oiseaux. Et il y a un argus bleu, là, magnifique. Ah, il y a plein de petits argus encore, là. Mais ça, c'est rien, un souci, là, jaune.
Hop,
hop. Alors, là une pente comme ça, plein sud, c'est un bonheur total. Et même en plein hiver, hein, quand la maison Jean-Queux, elle est dans la branche morte du frêne, là-haut. Voilà, la grosse poêle à frire, là. Alors, en général, elles ne sont jamais seules. Il y a toujours une bande d'une quinzaine, une vingtaine. Et c'est facile à reconnaître. Et si. Et alors, sur une prairie comme ça, en plein soleil, il y en a encore les derniers papillons. Alors, on peut avoir des vulcains encore. En ce moment, on a des vulcains. La semaine dernière, il y avait encore des papillons tout jaunes magnifiques qui s'appellent des soucis.
D'autant qu'on a quand même des orties pas loin. Et alors, s'il y a bien des papillons qui sont inféodés aux orties, on a le vulcain, on a le pont du jour, et puis...
Ah ben oui, on a la petite tortue. La petite tortue.
La petite tortue.
Personne ne connaît la petite tortue, parce que dès qu'on dit petite tortue, on pense à un reptile. Mais non, c'est un papillon aussi.
Tu sais au moins comment ça naît, un papillon? Ah, ça se complique. Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois? Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans sa crie.
Chrysanthème?
Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Tiens, regarde, voilà. Ça, c'est un cocon. Et dans une dizaine de jours, ce sera un papillon.
Ce truc horrible, un papillon?
Ah oui, oui.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les papillons. C'est comme les bêtes à bon Dieu, les coccinelles, tout le monde aime ça.
Ouais, elles ont la cote.
Ça ne faut pas oublier que le papillon, il n'est pas papillon. Il n'arrive pas comme ça d'un seul coup sur Terre comme un beau papillon. Avant d'être un papillon, c'est une chenille. Or, dans les rares endroits, dans les jardins où les gens gardent un petit carré d'ortie, s'ils voient un gros paquet de chenilles noires, bien cracra, bien dégueulasse, on va vite essayer de prendre un produit chimique parce que le monde qui dit chenille dit dégâts. Et le problème, c'est que quand on voit plein de petites chenilles noires dans un bosquet d'orties, ce sont des larves de petites tortues qui vont sortir, donc des papillons.
Oui. Donc il faut avoir un autre regard sur les orties.
Voilà, parce que dans les orties, d'abord, c'est très bon à manger, on fait plein de choses avec, mais surtout, c'est la plante nourricière des trois plus beaux papillons de France. La petite tortue, le vulcain et le pan de jour. Le pan de jour avec ses belles ocelles qui font des gros yeux, ce qui fait que quand un prédateur arrive, il ouvre ses ailes et... Oh Oh, un grand-duc! Et il renonce. Et alors, au-dessus, il y a les plateaux de Chartreuse, hein, avec des parapentes qui décollent de là-haut. Et derrière, hein, toutes les grandes falaises de Chartreuse, les lances de Malissard. Et après, il y a la dent de Crolle, le col du Coq. Plein de choses magnifiques. Là-haut, il y a des grands rapaces. Il y a des aigles, il y a des passages, de plus en plus de passages de vautours aussi.
Toutes les strates de la nature sont en fait occupées.
Oui, si on fait une tranche chartreuse, Grésivaudan, colline, on a un biotope absolument prodigieux. Et alors en bas, si on peut rajouter des roselières dans la plaine, ce qu'il y avait avant, on a tous les biotopes possibles.
C'est pour ça que vous entretenez votre lagunage, et que c'est devenu quasiment une réserve.
C'est l'œuvre d'une vie.
Oui, c'est l'œuvre d'une vie. L'automne, sa vie, son œuvre, donc toujours en Isère. Dans quelques instants, on va poursuivre ce voyage avec Jean-Marie Pelt qui va donc nous détailler le mécanisme de cet automne et toujours Patrick Deschamps.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes, à la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme une fredonne de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon fronton, la vieille mélodie. À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie ces couleurs de super.
Judicieusement choisi par Thierry Dupin, c'était donc Tété à la faveur, bah oui, de l'automne.
CO2, mon ami.
J'imagine aisément l'émotion qui vous étreint aujourd'hui, car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire, Brigitte Leclerc. 72, date de ta naissance, Claude enregistre un de ses plus grands tubes. Je t'aide, c'est une saison très vite. Allez, c'est une saison.
Oh. Avec Denis Chessou.
L'automne. L'automne. T'en fous pas des automnes. Allez, casse-toi, t'iras passer l'hiver ailleurs.
Sur France Inter.
Eh ben voilà, c'est comme ça avec Poulvord, bien évidemment. Alors cet automne donc qui redonne à la terre donc les feuilles qui lui furent prêtées par le printemps et l'été, et ben on va quand même bien suivre aussi son mécanisme avec un homme que j'adore retrouver. C'était une belle amitié, c'était Jean-Marie Pelt, donc visionnaire, écologiste et aussi botaniste et très bon raconteur du vivant.
J'adore la montagne, la neige surtout. C'est pour ça que j'aime l'hiver, c'est ma saison préférée. Et toi, papa, c'est quoi ta saison préférée?
L'automne. Bah, c'est l'automne parce que c'est toujours le début de quelque chose. C'est le début de l'année, c'est la rentrée scolaire. Et une fois, j'étais étudiant et j'ai vu ta mère, voilà. Maintenant, tu sais pourquoi.
Quand on voit les feuilles en été, bien sûr, elles sont vertes. La nature est verte. Sauf en automne où elle n'est plus verte. Et pourquoi elle est verte? Parce qu'il y a de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est le pigment vert. Et grâce à cette chlorophylle, qui est un capteur solaire très efficace, l'énergie solaire est captée donc par les feuilles, qui sont des petites usines, et qui fabrique la matière vivante avec l'eau qui vient des racines et le gaz carbonique de l'air que les feuilles puisent dans l'air. Voilà, ça c'est ce qui se passe au printemps et au début de l'été. Puis ensuite commence une période de repos où la plante ne fabrique plus beaucoup de matière végétale, mais où subtilement, en été, elle fabrique des bourgeons pour l'année suivante. Ensuite, ça jaunit. C'est pas la chlorophylle qui jaunit, c'est que la chlorophylle commence à se détruire et elle se détruit en laissant apparaître d'autres pigments, un pigment jaune qui s'appelle l'axanthophylle, un pigment couleur carotte qui s'appelle d'ailleurs le carotène parce que c'est dans les carottes qu'on l'a mis en évidence. Et ces pigments-là prennent le dessus puisque la chlorophylle ne les masque plus. Et donc tout devient jaune ou rouge. Et si vous êtes au Canada, les érables deviennent rouges parce que les érables contiennent beaucoup de carotène.
Jean-Marie, pourquoi la chlorophylle part-elle ?
Elle part parce que, au fur et à mesure que les jours deviennent plus courts, une hormone, qui est une hormone de croissance des plantes, mais qui régit aussi ce phénomène, qui s'appelle l'auxine, commence à diminuer. La plante n'en fabrique plus beaucoup. En période de nuit longue, la plante n'en fabrique pratiquement plus. Et quand il n'y a plus d'auxine, c'est là que la chlorophylle est condamnée. On s'en aperçoit si, par exemple, en automne, vous êtes en ville et vous regardez les arbres d'alignement, vous pouvez observer que s'il y a des éclairages très forts à proximité, les feuilles sont encore vertes. Et un peu plus loin, où il n'y a pas un éclairage très fort, les feuilles sont déjà jaunes ou elles sont déjà en train de tomber. Parce que après l'épisode du jaunissement ou du rougissement, il y a l'épisode de la chute, qui est l'étape suivante.
Alors, pourquoi les feuilles tombent ?
Eh bien, parce qu'au fur et à mesure qu'il n'y a plus beaucoup de chlorophylle, il y a une autre hormone gazeuse qui se forme, qui est l'éthylène. Et cette hormone va entraîner l'apparition sur les pétioles des feuilles de ce qu'on appelle savamment la zone d'abscission, c'est-à-dire l'endroit où ça va casser quand il y aura du vent. Pourquoi ? Parce que ces cellules-là, elles vont se charger de liège. Et petit à petit, elles vont ne plus être serrées les unes contre les autres. Elles vont commencer à avoir du jeu. Et cette zone devient une zone de fragilité liée à la production d'éthylène. Et puis dès qu'il y a un coup de vent, ça casse à cet endroit-là et la feuille tombe. Alors cette éthylène, c'est une hormone gazeuse qui est très intéressante parce que elle fait pareil pour les fruits que pour les feuilles. Elle accélère le vieillissement. Et pour un fruit, le vieillissement, c'est la maturation, naturellement. Alors, vous avez des bananes dans une armoire qui sont des bananes vertes, qui sont des bananes pas mûres du tout. Alors, si vous êtes impatient et si vous voulez qu'elles mûrissent rapidement, vous installez
des pommes.
Les pommes fabriquent de l'éthylène. L'éthylène fait jaunir les bananes, précipite par conséquent leur maturation et donc leur vieillissement, puisque la maturation c'est proche du vieillissement, c'est le chemin qui va vers le vieillissement, et les bananes deviennent jaunes. Voilà deux hormones très importantes, l'auxine et l'éthylène.
Et oui, avec Jean-Marie Pelt, donc les choses sont toujours, toujours simples, même quand elles sont savantes. Patrick Deschamps, lui, n'a pas besoin des écrans pour valider le réel. On va le retrouver, il nous prend par la main, par le regard, chez lui, donc en Chartreuse, ce massif qui grimpe fort, vite, et oui, à pied ou à vélo.
Il y a un piquet pêche qui est en train de grimper le long de la branche de frêne.
Alors ça, c'est un lieu où vous passez une bonne partie de votre vie, ici.
Ah bah oui, là c'est idéal, je suis quasiment 100 mètres au-dessus de la maison, je domine toute la vallée, je sais tout ce qui passe, ça me passe au-dessus de la tête ou en dessous, donc je peux dominer, j'ai une vue dégagée sur 360 degrés, parce qu'il y a les falaises de Chartreuse, faut pas exagérer. On est quand même assez borné ici par le Beldonne sur l'est et la Chartreuse sur l'ouest. Et d'ailleurs le sud aussi est borné par le Vercors et le nord par les Bauges, donc ici on est un peu coincé. Ceci dit, il y a quand même de l'air, et on voit quand on se retourne vers Beldonne, vers l'Italie, on voit qu'il y a des choses
On voit là, les monocultures de maïs, les monocultures de noyer, et on voit que c'est en train de se refermer sur ces forêts sombres de noyer, monoculture industrielle. Et puis le grignotage des lotissements qui petit à petit monte et descend. Ça envahit la plaine et en même temps ça monte sur les collines. Tiens, il y a un fourmilion qui vient de partir là.
Qu'est-ce que c'est le fourmilion?
Ça ressemble à une libellule, mais alors, personne ne connaît ça. Alors, par contre, si vous allez dans le poulailler, que vous voyez dans le sable fin, vous avez des petits cônes, comme ça, c'est des larves de fourmilion. Alors on ne voit pas l'adulte, on ne voit pas l'imago. Mais quand on voit le nombre de petits cônes qu'il y a dans la Terre, c'est qu'il y en a plein.
Oui, mais alors ça ressemble à quoi?
Eh ben, ça ressemble à une libellule, il y a quatre ailes comme ça, un corps en longueur, et c'est assez rare d'en voir en plein jour d'ailleurs.
C'est pas une libellule, c'est pas un papillon, un fourmilion.
C'est un fourmilion.
Allez, encore un Argus, ouais. Bleu pâle. Là. Oh, oui, boy.
Il vient vers nous.
Il vient vers nous.
J'ai la chance d'être à la retraite et d'avoir... Quand j'ai pas de travail sur le fort ou des trucs comme ça, je viens ici, je peux y passer une journée entière. Je me suis même dégagé un petit coin dans les haies là-haut où il n'y a plus un chardon et je peux me coucher dans l'herbe. Je suis survolé par des oiseaux, ils sont surpris par ma présence. C'est drôle, des fois ils se perchent à côté de moi, ils ne me voient pas. Et ça, c'est le bonheur total. Quand on peut observer des oiseaux sans les déranger, ils font leurs affaires malgré votre présence. Ça veut dire que vous ne les dérangez pas, c'est parfait. On est en paix avec la nature, totale.
Alors vous êtes un homme qui est relié, c'est-à-dire depuis l'enfance donc à cette nature, donc vous savez que vous lui appartenez réciproquement, c'est du va-et-vient permanent, mais...
Ah bah c'est ombilical, hein. c'est la mère nature, c'est ça, c'est mon lien ombilical avec ma maman. Je me suis toujours vécu comme un indien au milieu des cow-boys, c'est vraiment ça.
Et ça va même presque encore plus loin que ça.
Ben oui, je me demandais ça l'autre jour, j'étais en train de tailler des haies, une centaine de mètres de haies, parce que maintenant que les moissons des maïs sont faites, ben, on voit qu'il y a des ronces qui ont gagné sur les maïs et tout ça, donc il faut tailler les haies pour pas que ça gagne, parce que si ça gagne, ben, ou on va mettre du Roundup quand il en reste, soit on va passer les pareuses, mais c'est en même temps c'est le bon moment pour passer les pareuses. Mais en même temps, les pareuses, ça fait du bruit, ça fait des gros dégâts, ça laisse des branches complètement éclatées, c'est pas beau, c'est déchiqueté. Et moi, ça me fait mal. C'est comme si on m'arrachait un bras à chaque fois, on me lacérait les membres et tout ça. Donc, je mets un point d'honneur, puisque j'ai du temps, c'est un privilège quand même, je suis pas la tête dans le guidon à aller au boulot, et ben, de couper ça avec un sécateur, donc les ronces et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi je m'embête, moi, à couper ça, alors qu'autour, il y a des gens qui font du jogging, qui font du vélo, qui s'occupent, qui font du sport à outrance, tout ça, et qui prennent pas sur eux de rendre utile le fait de dépenser de l'énergie. Alors pourquoi moi, je m'embête à couper des ronces, à couper des branches d'érable qui dépassent, que calibrer ma haie?
Quel est le résultat de la réflexion?
Ben, le résultat de la réflexion, si je dis pourquoi je m'embête à faire ça, est-ce que c'est la démarche christique qui consiste à se dire « je rends à la nature... » D'une certaine façon, je répare les dégâts qu'on lui fait. C'est-à-dire que par mon action, à chaque fois que je coupe une branche proprement, que je ne l'escanne pas, tout ça, c'est une façon de lui rendre hommage et de compenser tous les dégâts qu'on fait, que nous, les hommes, on fait à la nature. Donc, à ma pauvre échelle, j'ai l'impression d'avoir une démarche christique, c'est-à-dire je compense les péchés du monde par rapport à la nature.
Là, il y a un beau pommier, il est tombé. Feu le pommier, c'est ça? Ah oui, ah oui.
C'est dommage. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de fruitiers partout et que la tempête en a fait descendu pas mal. Puis on les entretient plus, ils crèvent. Et c'est très embêtant parce que c'est des arbres qui sont favorables à la faune. Évidemment, ils sont creux, il y a des insectes, il y a des trous, il y a plein de choses.
Et puis on va virer aussi quelques préjugés quand même sur les arbres morts. Parce qu'il y a quand même des choses derrière les choses.
C'est-à-dire que dès qu'il y a une branche creuse ou un tronc creux, le bon peuple s'imagine que ce sont des arbres dangereux, qui sont morts et tout. Non, un arbre, il peut être creux et toujours vivant. Il y a des chênes, il y a des frênes, il y a des mûriers, par exemple, qui supportent énormément ça. Les arbres peuvent être complètement creux, il y a une colonne vide à l'intérieur, mais tout le cambium est vivant et ça continue à pousser et à vivre. Et même des fois, ça crée un biotope dans le fumier qui est à l'intérieur du tronc. Vous avez des graines de sureau ou des graines de cornouiller qui tombent dedans, qui sont amenées par un oiseau ou un écureuil, tout ça, et ça se met à pousser à l'intérieur. Donc vous pouvez avoir à l'intérieur d'un tronc de mûrier un sureau qui pousse. Donc l'été, on voit encore un arbre en feuilles vertes, même si le mûrier est complètement mort. Donc ça continue la vie. Il faut bien penser qu'il y a plein d'oiseaux qui ne peuvent nicher que dans les arbres creux. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus de place, on leur laisse plus de place. Voilà.
1, 2, 3, 4 buses.
Voilà,
tournoyant là.
Là, je suis là en train de m'échauffer, alors qu'en fait, il se passe plein de choses. Tout à l'heure, il y a le rouge-gorge qui est venu, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces deux Pékins sur mon territoire, qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Il est venu, il a plastronné, il s'est mis à côté, là, puis il a vu qu'on n'était pas dangereux, il est reparti à ses affaires. Et là, il y a une belle pompe, il y a quatre buses qui se régalent. Voilà, hier, il y en avait trois, aujourd'hui, il y en a quatre.
Juste au-dessus,
il y a un couple reproducteur là-dessus, là, dans les chaînes où on va. Là.
Ça, ça vole.
La vie suit son cours, comme elle sait si bien le faire.
Bon, merci Patrick Deschamps pour cette virée, bien, cette balade automnale.
C'est un tel bonheur de pouvoir en profiter, de prendre le temps de regarder, d'écouter, de sentir, sans se polluer les oreilles. D'accord. Tout ça existe encore. Et tant que ça existe encore, ben, ça vaut le coup.
Grand merci. À bientôt Patrick Deschamps.
À bientôt tout le monde. À bientôt Denis.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, il avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parti.
C'était la façon, c'est au de mon amour, de fêter l'automne en Isère. Merci à Patrick Deschamps. La semaine prochaine, moi, je serai avec Boris Cyrulnik. On sera dans le Var. On sera chez lui avec la mer Méditerranée derrière nous, en arrière-plan. Merci à Bruno Mourlan qui a mixé ce reportage, à Xavier Pessugia qui l'a réalisé et qui l'a colorisé, ainsi que Camille Blanès. Le Twitter et Instagram, vous en avez l'habitude maintenant, donc Denis Chessou, les différents podcasts, n'hésitez pas. Même d'ailleurs les éditos aussi sont à part, hein, si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne fin de dimanche.